Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Lyndon, Lionel Gaïma sur la production. Autant pour moi de cette émission, installez-vous confortablement, on se retrouve juste après. Vous êtes donc sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Dans cette édition du vendredi 27 juin 2019, nous parlerons des primaires chez les démocrates, candidats à la Maison-Blanche, qui ont ouvert mercredi à Miami le premier débat télévisé de la présidentielle américaine. Devant le nombre de candidats, se pressant pour en découdre avec Donald Trump, je ne sais pas ce qui m'arrive, les organisateurs ont dû diviser le débat en deux parties. 10 candidats se sont opposés mercredi soir et 10 autres, dont plusieurs gros calibres, se sont affrontés hier soir, toujours à Miami. Dans cette ville où 7 habitants sur 10 sont hispaniques, la polémique sur la gestion du pic d'arrivée des migrants clandestins par l'administration Trump est passée au premier plan. Après les révélations d'une ONG sur les conditions de vie sordides des jeunes migrants et la noyade d'un père et de sa fillette, la Floride est un état clé dans les élections américaines. La première manche marquée par la confirmation du statut d'Elizabeth Warren parmi les principaux prétendants de la course. Le vétéran de la politique et favori des sondages Joe Biden est entré en piste hier, jeudi, lors du deuxième acte du débat démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. Il s'agissait d'un premier test majeur pour Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, mais l'actuel favori des sondages, âgé de 76 ans, a rapidement été appelé à passer le témoin. Elizabeth Warren, Beto O'Rourke, Cory Booker, Amy Klobuchar, le maire de New York, Bill de Blasio, la sénatrice noire Kamala Harris, le maire Pete, 37 ans, ont, entre autres, et puis l'ex-ministre de Barack Obama, Julian Castro, et tous les autres ont tenté d'imprimer leur marque. Nous parlons donc de tout cela dans l'Amérique et vous. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission en nous laissant vos commentaires sur Facebook. Vous pouvez également choisir de poser vos questions à nos invités. Et nos invités ce soir, c'est René Lec, analyste politique et bien introduit dans le camp démocrate. René Lec, bonsoir et merci d'être là en studio.
Bonsoir, John.
Depuis Bruxelles, en Belgique, nous aurons Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales. Henri Désiré, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir John, bonsoir aux auditeurs de VOA.
Merci d'être parmi nous. Vous restez à l'écoute. Le temps pour nous d'accueillir notre troisième invité. Il s'agit de Herman Aboa. Il est journaliste ivoirien basé dans l'état du Maryland, voisin de Washington, la capitale américaine. Monsieur Aboa, bonsoir et ravi de vous avoir dans l'Amérique et vous.
Merci John, je suis très heureux, je salue au passage déjà les auditeurs de VOA et tous les autres intervenants.
Merci donc. René Lec, on va commencer par vous puisque vous nous allez nous laisser pour rejoindre un autre show de VOA Afrique, très sollicité, vous êtes ici. Alors, je vais commencer donc par vous René, vous avez suivi les deux débats, que dire de la prestation des différents candidats?
Écoutez, moi j'ai trouvé que les deux débats étaient de haute facture. Le premier débat où Elizabeth Warren s'est fait remarquer et était en fait en pole position par rapport aux autres candidats qui étaient présents, était plus, de mon point de vue, plus calme, il y avait moins d'attaques, il était moins agressif, donc on s'est plus focalisé sur le contenu. Celui d'hier, où les deux principaux candidats, en tout cas par rapport aux résultats des sondages actuels, Joe Biden et Bernie Sanders étaient présents, étaient beaucoup plus agressifs. Hein. Mais je crois que ce que je trouvais personnellement intéressant, c'est que si on a posé les deux l'un et l'autre, j'ai envie de dire que dans les deux débats, ce sont des femmes qui sont arrivées en tête très largement. Elizabeth Warren pour le premier et Kamala Harris, la sénatrice de Californie, qui a largement dominé celui celui d'hier.
Et donc, s'il fallait un ticket pour les démocrates, il faudrait avoir une femme, à votre avis?
Oh, pour moi, c'est une, comme disent les Américains, c'est un no-brainer. Hein, je crois que si ce n'est pas la tête de liste qui sera une femme, ce que beaucoup souhaitent, ça sera au moins la position de vice-président. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, le ticket des démocrates cette année, il ne peut pas ne pas y avoir une femme.
René, pour entraîner, enchaîner avec vous, Joe Biden s'est montré quand même vulnérable dans ce débat d'hier face aux attaques de ses adversaires, notamment face à la Californienne Kamala Harris. Est-ce qu'il va tenir le coup? D'autant plus que d'aucuns s'inquiètent de son âge, il a 76 ans.
Franchement, John, hier, quand je regardais ma télévision, je suivais le débat. L'image était assez dure parce que vous savez, tant qu'on parle, tant qu'on est seul sur une scène, la perception est différente. Mais quand vous avez tous ces jeunes là alignés et que au centre vous avez Joe Biden et Bernie Sanders, vous avez l'impression que franchement ils sont un peu en décalage par rapport, ne serait-ce que d'un point de vue générationnel, par rapport aux autres candidats. Donc le côté vieux. Ancien, j'ai envie de dire, pour utiliser une expression qu'on utilise souvent en Afrique, ouais. Le côté ancien de ces deux candidats-là était manifeste, et je crois que ça va avoir un impact, ne serait-ce que psychologique.
Ah, voilà, je vais aller en Belgique rejoindre Henri Désiré Nzouzi. Henri, quels sont les échos qui vous parviennent de là-bas à propos de ces débats américains?
Alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par l'un et l'autre, mais j'aimerais toutefois insister sur le fait que la campagne sera très très longue et que donc nous avons assisté à un premier tour de chauffe au cours duquel effectivement certaines personnalités se sont révélées à travers un discours cohérent, peut-être même pugnace, mais je rappelle encore une fois que la campagne est très très longue, il peut encore se passer beaucoup de choses. La politique américaine nous a souvent habitués à des retournements de situation extraordinaire, et le moment clé, me semble-t-il, ce sera effectivement lorsque les primaires commenceront de manière effective, où là, pour le coup, certains pourront se lâcher puisqu'ils n'auront pas d'autre choix que de s'adapter ou de disparaître. Pour le reste, oui, effectivement, il serait temps qu'un ticket démocrate associant un homme et une femme, quel que soit d'ailleurs l'ordre, hein, président, vice-président ou inversement, puisse, je dirais, voir le jour et être, je dirais, encouragé dans ce sens. Mais ce qui me paraît aussi important de noter, puisque vous avez noté, fait allusion à l'âge de Joe Biden, je rappelle quand même que Donald Trump, quand il a été élu, c'était il y a 2 ans à peine, hein, donc il avait déjà dépassé les 70 ans, 71 ans déjà, et donc je pense que ce n'est plus vraiment un critère pour pouvoir éliminer ou disqualifier tel ou tel. Il viendra un moment où l'expérience sera peut-être plus importante que l'âge, que la jeunesse, que la pratique du pouvoir. Joe Biden a pour lui effectivement l'expérience de la vice-présidence des États-Unis. Est-ce que cela sera suffisant? Je ne le crois pas. Néanmoins, il serait, me semble-t-il, prématuré de l'enterrer.
Ça, c'est votre point de vue. Donc, on va prendre celui de Herman Aboa. Bonsoir.
Bonsoir, John. Moi, je pense que ce débat-là, ce qu'il nous a montré, surtout le premier jour, on le constate, hein, lorsqu'on voit le plateau du premier jour, c'est le plateau des outsiders, des inconnus presque, à part Elizabeth Warren, qui était un peu le leader de ce plateau-là, et les autres venaient accompagner. Et la personne qui m'a beaucoup déçu, je peux parler de Beto O'Rourke. Il est resté l'ombre de lui-même. Il a tenté de défendre des positions qui n'étaient pas forcément partagées par certains de candidats. Et il y a, il ne faut pas négliger la bonne impression de Julian Castro, qui est le seul candidat hispanique, qui est revenu, qui a insisté sur la question de l'immigration, qui importe les gens. Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de petite fille avec son bras qui ont été noyés. Donc, je lui ai dit, le débat du premier jour, on voit que Julian Castro, c'est vrai qu'ils sont très loin des grands, mais qui avancent. Mais Joe Biden, pour prendre le deuxième jour, Joe Biden, je ne crois pas. que l'âge, comme tout à l'heure, celui de l'ami de
Henri Désiré, oui.
L'âge, je ne crois pas, puisque c'est déjà, c'est pas un critère qui élimine même celui qui veut être candidat à une élection aux États-Unis ici. Donc,
voilà. Donc,
cela soit un handicap.
Tout va peut-être se décider dans l'État de l'Iowa. René, l'Iowa sera donc le premier État à se prononcer dans ses primaires démocrates. Ce sera en février 2020. Très souvent, c'est l'Iowa qui marque la chute ou la réussite d'un candidat à la présidentielle. Et en d'autres termes, qui gagne l'Iowa a de fortes chances de gagner la Maison Blanche. Et la question que beaucoup de nos auditeurs se posent, c'est pourquoi l'Iowa, pourquoi cette réputation?
Parce qu'en fait, c'est la première, c'est le premier round. Et vous savez, le premier round, ce qu'il détermine, c'est ceci, c'est jusqu'à quel...
Oui, vas-y.
D'accord. Donc le premier round, ce qu'il détermine, c'est jusqu'à quel point les candidats vont pouvoir survivre financièrement. Alors, si dès le premier round, on ne se rend pas compte, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens financiers de fonctionner, de pouvoir rester sur la course, ça crée des difficultés particulières.
Voilà. Donc, on va voir cela avec le temps et on va prendre quelques réactions sur Facebook. Peut-être la première, ce serait celle de Diallo Tierno, qui nous a écrit sur Facebook et qui dit, à mon avis, ce sont les vétérans de la politique comme Joe Biden qui pourront faire face à un Donald Trump qui n'hésitera pas d'utiliser d'autres stratégies inattendues pour les battre à nouveau. Alors Henri, est-ce que vu de Bruxelles, est-ce qu'une femme aujourd'hui peut gagner une élection aux États-Unis?
Écoutez, il y avait un engouement pour Hillary Clinton en 2016, lorsqu'elle s'est présentée contre Donald Trump. Il y a effectivement une sorte de revanche cette année. La même.
Oui. Je ne sais pas, Henri, si vous m'entendez, mais on a l'impression que votre téléphone coupe de temps en temps.
Non, moi je vous entends parfaitement.
Voilà, donc, allez-y, continuez.
Je disais qu'il y a une sorte de revanche, en tout cas, pour voir une femme enfin arriver à la Maison Blanche, après la défaite d'Hillary Clinton, qui n'avait pas du tout démérité. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quel que soit l'ordre dans lequel le ticket sera constitué, il faudra effectivement créer les conditions d'une arrivée d'une femme à la Maison Blanche. C'est indéniable, ce sera à mon avis nécessaire et une manière de réoxygéner la politique intérieure américaine.
Voilà. Et on va prendre un auditeur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Hassan, bonsoir.
Bonsoir aux invités, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Voilà, on vous écoute. Votre réaction par rapport à ces débats du côté démocrate?
C'est une très bonne initiative d'abord que les démocrates d'abord pas débattre entre eux et de trouver quelqu'un qui peut compter voilà, et s'opposer à cette politique qui est Trump qui se prépare déjà à l'élection présidentielle de 2020. Donc c'est une très bonne initiative de trouver quelqu'un qui peut être à la hauteur et qui peut pas même le programme et mais contredire aussi les ambitions qui sont souvent radical de ce Trump, mais je voudrais poser une question qui me semble importante. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y aura une surprise au sein du Parti démocrate qui peut contrer Trump en 2020? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un sur ce gène, ce dynamique qui vient de milieu qu'on appelle souvent minoritaire aux États-Unis et qui peut battre Trump aux élections présidentielles de 2020?
Alors, je vais retourner la question à Henri Désiré. Henri, est-ce que vous pensez que dans le camp démocrate, il y a vraiment quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui peut faire face à Donald Trump?
Mais comme je l'ai dit, c'est un peu tôt pour se prononcer parce qu'il y aura d'autres débats, bien évidemment.
Tout à fait. Les
personnalités vont se révéler. Et donc, il faudra, à mon avis, attendre les primaires de l'Iowa. Vous l'avez évoqué, qui peut avoir un effet éliminatoire pour certains candidats et peut-être un stimulant ou une forme, je dirais, de progression pour les autres. Mais c'est
prématuré, me semble-t-il. À tout prendre, je dirais qu'à l'heure actuelle, le seul qui soit en capacité de répondre argument contre argument à Donald Trump, c'est Joe Biden.
Voilà. Donc, on va. Herman, vous avez suivi les deux débats et vous avez vu, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de jeunes, ou tout au moins deux, qui se distinguent, le maire Pitt et puis d'autres dans cette élection. Est-ce que, vu cette jeunesse, quand vous regardez le continent d'où vous venez, est-ce que les jeunes peuvent aussitôt s'impliquer dans la politique et est-ce qu'ils peuvent s'engager à occuper des postes comme celui de président de la République?
Moi, je pense que d'où est-ce qu'on se trouve, les jeunes ont leur partition à jouer sur la scène politique. Et puis ici aux États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'un jeune participe activement à ce genre de débat, à ce genre d'échéance. Barack Obama, lorsqu'il y passait, il était jeune, donc les jeunes ont toutes leurs chances. Mais ici, les démocrates, ils ont aujourd'hui objectif de battre le candidat républicain qui est le président sortant, Donald Trump. Donald Trump, c'est pas un jeune de 40 ans, de 37 ans, de 50 ans. Pour pouvoir bien se mesurer, il faut quelqu'un qui a une certaine maturité en termes de dossier. Parce que Donald Trump, il est ce personnage s'il est, mais je crois pas qu'un jeune, je ne dis pas, je ne veux pas voter pour eux, un jeune, actuellement, ce qu'on nous a donné de voir, puisse le tenir. Il faut remarquer que, parce que Joe Biden a cette position, de celui de challenger, les autres candidats étaient prêts à pouvoir lui créer des petits cookies. Donc certains y sont parvenus. Ça ne fait pas de Joe Biden un petit candidat. Je pense que sa position de leader actuellement au niveau des sondages, il va continuer de maintenir cette position-là. Quel que soit, c'est un raté, c'est un balbutiement qu'on a eu lors de ce premier débat.
Henri, depuis Osaka, où il se trouve Donald Trump, 73 ans, s'est amusé des difficultés de ses rivaux, notamment il a qualifié Joe Biden d'épuisé et Bernie Sanders de fou. Trump peut-il gagner un second mandat, à votre avis? Sinon, qui pour lui faire obstacle? Henri?
Être un peu plus modeste, il n'a que 2 ans de moins que Joe Biden. C'est-à-dire que si jamais la finale devait les opposer, ils seraient tous les deux considérés comme étant de la même génération. C'est un premier élément. La deuxième chose, c'est qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. La seule chance, me semble-t-il, pour Donald Trump d'espérer une réélection, c'est d'enfermer encore plus l'Amérique dans une tour d'ivoire, dans une sorte de citadelle assiégée, à l'abri des menaces extérieures, avec évidemment en parallèle, je dirais, un développement économique ou en tout cas une croissance conséquente, ce qui semble pour l'instant lui profiter. Mais il y a aussi le contexte international. On ne sait pas très bien ce que donnera le bras de fer avec pas seulement la Chine, mais également d'autres superpuissances comme l'Inde ou le Japon. Tout cela sera important et à mettre dans un contexte international qui pourrait peser le 3 novembre au moment de l'élection américaine. Alors, dernier élément, on parlait de la jeunesse. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Amérique ne peut plus se permettre d'avoir à la Maison-Blanche un stagiaire en matière de politique étrangère. On a vu les dégâts de ces derniers mois. Il faut donc quelqu'un qui puisse à la fois être aguerri sur les questions de sécurité, mais surtout, qui puisse prendre la mesure des engagements librement souscrits par les États-Unis sur toute une série de dossiers qui vont du nucléaire aux questions environnementales.
Alors justement, je m'apprêtais à vous poser une question sur la politique étrangère des États-Unis depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Qu'est-ce qui doit être fait pour réparer, entre guillemets, ce qui a été détruit, et qui mieux dans le camp démocrate peut le faire? Henri?
Oui, excusez-moi. Oui, donc, indéniablement, Joe Biden, vice-président pendant 8 ans, donc ça lui donne quand même, me semble-t-il, toute la légitimité pour pouvoir porter ces questions-là. C'est un peu le pendant de Al Gore à l'époque de Bill Clinton. Il est vrai qu'un certain nombre d'engagements pris par les États-Unis ont été remis en cause par le président Donald Trump pour des raisons qui lui sont propres, puisqu'on a assisté depuis son arrivée à une forme d'unilatéralisme qui n'a pas eu que des effets bénéfiques pour l'Amérique, mais qui, paradoxalement, n'ont pas affecté le dynamisme de l'économie américaine. Alors, les Américains seront tentés de choisir entre un recentrage sur les questions de politique intérieure, en ce compris des questions économiques et des questions de migration, plutôt que de continuer à se laisser, je dirais, entraîner par d'autres pays sur des questions qui, très franchement, ne les intéressent pas forcément. Et tout ça fait partie du débat qui sera évidemment proposé aux Américains et pour lequel nous serons très attentifs.
Herman Aboa, à ce stade des débats et selon plusieurs analystes, 5 candidats semblent mener la course. Il s'agit évidemment de Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris et Pete donc. Si on se projetait à 2020, quel serait pour vous le meilleur ticket face à Trump parmi ces 5 candidats?
Je pense que Joe Biden a couplé avec Kamala Harris. Je pense que ça peut faire mouche face au ticket républicain.
Alors, Henri, vous, le meilleur ticket parmi les 5?
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, ce ticket-là, me semble-t-il, pourrait faire des dégâts.
Voilà, on va prendre un auditeur au téléphone. Alphonse Mboaki, bonsoir.
Bonsoir, en tout cas, j'ai beaucoup de questions sur Joe Biden. Il a fait chevronner de la politique étrangère. Vous savez, Donald Trump a permis l'image des États-Unis à l'extérieur. Mais il faut des gens comme Joe Biden qui est chevronné à l'extérieur, pour la politique extérieure. Et ensuite, il se connaît dans la politique intérieure pour avoir travaillé avec Barack Obama, donc il a l'expérience. Donc moi, je pense que pour moi, c'est le candidat favori dans mon cœur. Donc, Donald Trump n'a pas les qualités d'un homme d'État. Il faut un homme qui a les capacités de homme d'État pour rencontrer Donald Trump, parce que lui, c'est un homme d'affaires. Alors, il faut vraiment quelqu'un qui a franchi les étapes. Il était gouverneur et puis il connaît dans la politique.
Tout à fait. Et puis, Joe Biden a été candidat à la présidentielle américaine deux fois déjà. Henri Désiré, Bernie Sanders se revendique socialiste. Et lors du débat d'hier, jeudi, il a martelé son discours contre les inégalités économiques. Mais dans un pays capitaliste comme les États-Unis, ce discours peut-il convaincre, même si on constate effectivement des inégalités, pas seulement économiques, mais dans d'autres domaines?
Non, les États-Unis sont effectivement un pays profondément capitaliste et individualiste. Le discours qui est tenu par Bernie Sanders est sympathique, mais ce n'est pas sa première candidature à l'élection américaine. Et donc, si vraiment son discours était, je dirais, percutant et aussi porteur, je pense qu'il aurait des résultats beaucoup plus prometteurs. Non, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que les Américains sont profondément conservateurs. Ils peuvent effectivement voter alternativement démocrate et républicain, mais pas au point de faire la révolution. Il y a les fondamentaux de la politique américaine, que ce soit au niveau intérieur et au niveau extérieur. Au niveau intérieur, c'est bien évidemment stimuler la croissance et créer les conditions d'un État-providence efficace. Et sur le plan extérieur, c'est de réaffirmer la toute-puissance américaine sur les différents théâtres d'opérations, qu'ils soient diplomatiques ou militaires. Voilà, et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des passerelles entre démocrates et républicains, et pour ce faire, les électeurs vont certainement se tourner vers celui qui sera en capacité de préserver à la fois la puissance américaine et de défendre les intérêts bien compris des Américains.
Et c'est avec ces mots, Henri Désiré Nzouzi, qu'on va se séparer. Merci à Herman Aboa qui a été là et à René Lec, analyste politique qui est également là. Cette émission a été produite par Lionel Gaïma, John Lindon, j'étais à la présentation. Je vous laisse en compagnie de Raïssa Girondin pour la suite des infos sur VOA Afrique. Bonsoir.